Bonjour, bienvenue sur Radio Scarpe Sensée, votre radio qui, toute cette semaine, vous fait vivre au rythme du festival Fête de la Chanson avec l'association Nadi Duda, 12e édition du festival qui se déroule jusqu'au 25 juin et tous les jours, nos interviews publiques enregistrées à l'hôtel de Guine à Arras. L'occasion aujourd'hui de revenir sur le passage de Marie-Thérèse au Rhin et de Misson, l'interview public sur Radio Scarpe Sensée. Bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Misson.
Bonjour.
On va passer quelques temps pour faire connaissance. Alors c'est curieux hein, que de faire l'interview croisée, je vous ai écouté toutes les deux, j'ai beaucoup lu, notamment beaucoup de choses sur vous Marie-Thérèse, un peu moins sur Misson, peut-être que... Voilà,
Il y a la différence d'âge. Hein.
Ceci explique
elle
peut-être
ça. Elle a du temps devant elle. Ouais.
Je me suis senti bête, Marie-Thérèse. Moi, je vais vous le dire, je vous connaissais pas. C'est normal, c'est pas normal.
Il
n'y
a pas d'offense.
C'est moi qui suis passé à côté. Comment ça se fait, ça?
Eh bien, vous êtes passé à côté parce que moi, la chanson, voyez-vous, je suis tombée dans la chanson, dans ce qu'on appelait la rive gauche. Étant comédienne au départ, j'étais montée à Paris, je venais de Nice, j'étais montée à Paris pour être comédienne. Alors j'ai fait 2 ans et demi au cours Simon, après ça dans un autre cours, et puis j'ai démarré très vite au théâtre, et j'ai joué au théâtre de boulevard, j'ai joué avec De Funès pendant 2 ans à Oscar, j'ai joué beaucoup. Et puis le hasard a voulu que je rencontre Patachou, sur une comédie musicale où je jouais un rôle secondaire et elle qui tenait la tête d'affiche, on n'avait pas prévu de doublure pour elle. Donc le compositeur m'a appris les chansons du rôle et un beau jour elle est arrivée, parce que c'était l'époque où elle faisait encore pas mal de galas dans les stations thermales et balnéaires, et donc elle est arrivée, j'étais sur scène à sa place en train de chanter une chanson de son rôle. Donc elle est arrivée sous la scène, elle m'a dit « T'es chanteuse toi ?» J'ai dit « Non madame, on me dit de faire ça, et ben je le fais, mais je ne suis pas chanteuse. » Alors au bout d'un moment, elle m'a dit « T'as pas voulu me le dire devant les autres, mais t'es chanteuse. » Je lui ai dit « Mais non madame, si je l'étais, je vous le dirais, je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas. » Non, elle me dit « T'as jamais chanté ?» Je dis « Si, l'année dernière, chez Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, en poussant les décors, au Zoir La Ferrière, en chœur. » Mais elle me dit « T'as jamais chanté seule ?» Non. Eh bien, elle me dit, tu devrais. Allez, chiche. Tu apprends 4 ou 5 chansons, tu les travailles, je te donne pas d'indications, tu choisis. Et puis, quand tu auras 4 ou 5 chansons, tu me dis, Pat, j'ai 4 chansons, j'ai 5 chansons. Tu viens déjeuner à la maison et je te dirai si ça vaut la peine de continuer. Et voilà. Je n'aurais jamais rencontré Patachou, j'aurais jamais eu l'idée de chanter. Et donc, elle m'a donné le goût de ça. Je suis allée dans un cours de chant qui était l'équivalent du cours Simon, mais en chanson, avec une prof magnifique qui me faisait penser à Piaf, c'était le même style de femme. Et donc j'ai beaucoup travaillé dans cette école, tout en reprenant du théâtre, ce qui fait que le soir j'allais au théâtre et je passais mes journées au cours de chant à travailler, parce qu'il y avait ce qu'on appelait un pianiste de fonction. Et donc on pouvait, c'était comme le gymnase club, on pouvait toute la journée s'entraîner. Et voilà, et un beau jour, un monsieur qui était venu, qui était directeur artistique dans une maison de disques, qui était venu voir l'audition de fin d'année, m'a dit, si vous êtes à Paris cet été, eh bien, l'échelle de Jacob, à l'époque, les cabarets restaient ouverts tout l'été, et il me dit, l'échelle de Jacob, la patronne, l'été, elle engage des petits programmes, pas trop chers, des jeunes, des débutants. Donc, je vais l'appeler et je vous dirai. Puis 10 jours plus tard, il m'appelle, il me dit, voyez, je vous ai fait une offre de Gascon, elle a tout son programme, et donc il faudrait un accident, un malade, un problème. Et l'accident s'est présenté 10 jours plus tard. Moi, je jouais le soir Oscar, et ce monsieur m'appelle et me dit, voilà, est-ce que vous pouvez venir à minuit à l'échelle de Jacob? Il y a un malade, il y a un problème, donc ça vous servira d'audition. Et allez-y. Alors j'ai pris mes partitions, j'ai joué ce soir-là sans savoir où je mettais mes pieds. Il y avait De Funès qui m'engueulait, qui me disait « Mais enfin, Orin, mais enfin, Orin, mais qu'est-ce que vous avez ce soir ?» Mais que... Oh, Louis, je vais aller chanter devant tous ces gens, toute seule, devant tous ces gens. Et à minuit, j'ai pris le taxi, j'avais les partitions, les chaussures, tout. Et je suis arrivée à l'échelle de Jacob et il y avait deux clients. On apprend ce métier à l'usage. Et donc, et ils avaient dû se rencontrer dans la soirée. Ils auraient mieux fait de se louer une chambre parce que j'aurais pu chanter la Marseillaise ou tomber raide, ils ne m'auraient pas vu passer. Mais alors la patronne a eu pitié de moi, donc elle est allée chercher la fille du vestiaire, le barman, enfin pour que j'aie 4 ou 5 personnes devant le nez, que je ne sois pas dans le vide avec ces gens qui se roulaient des pelles sur la banquette du fond. Et voilà. Et j'ai chanté mes 5 chansons et ça a plu à Madame Lebrun, qui était la patronne de l'échelle de Jacob, et je suis restée des mois à l'échelle de Jacob. Ça a été le pied à l'étrier. Et la rive gauche, ça allait très vite, parce que c'était un petit monde où tout le monde se connaissait. Et donc, les copains parlaient des nouveaux copains qui arrivaient dans le circuit, et on s'emmenait les uns les autres
passer. Il y avait une sorte de bienveillance qui existait.
Il y avait un esprit d'équipe. Il y avait un esprit d'équipe. On s'entraidait, on s'aimait bien, parce que quand on faisait un programme dans un cabaret, on était 6 ou 7 artistes, des pas connus, des plus connus, et on s'entraidait, c'est-à-dire qu'on s'emmenait les uns les autres quand on avait une audition. Moi, c'est des copains qui m'ont présenté dans les cabarets suivants, et voilà, et la boule de neige s'est faite, et j'ai beaucoup travaillé sur la rive gauche, j'ai même débordé sur la rive droite, où on était nettement mieux payés, Et donc, pendant des années, et puis quand les cabarets ont commencé à décliner, j'ai eu une chance inouïe. Le directeur du Châtelet, à l'époque, Jean-Albert Cartier, m'a fait venir. Je me suis dit, dans le bottin des artistes, cette dame, c'était son assistante, s'est trompée d'une ligne, c'est pas à moi que ça s'adresse. Parce que chant lyrique, tout ça, c'était pas du tout mon département. Si je puis dire, rappelons ça un département. Mais j'ai rappelé, je suis tombée sur la même voix, une voix charmante. Je lui ai dit, mais écoutez madame, je suis rentrée de province, j'ai trouvé un message, mais je pense que ce message ne m'était pas adressé. Alors elle me fait, mais vous êtes bien Marie-Thérèse Orin ? Je lui ai dit, oui madame. Eh bien elle me dit, si, c'était pour vous. Est-ce que vous pourriez passer voir monsieur Cartier ? C'est assez urgent. Quand pourriez-vous passer ? Ben, je lui ai dit, écoutez, demain, si vous voulez. Et le lendemain, à 17h, je me suis retrouvée dans le bureau de Jean-Albert Cartier, qui était un homme extraordinaire, un grand directeur de théâtre. Et il m'a dit, ah, est-ce que je suis content de vous rencontrer ? Je me suis dit, mais où il m'a vu ? Mais d'où il me connaît ? Et ça a été une histoire d'amitié formidable. Il m'a engagée pour une première opérette, Nono Nanette. Donc, Nono Nanette, c'est pas très loin de la variété. Donc, boum, il n'y avait qu'à entrer. Et après, j'ai fait la saison suivante, La Veuve Joyeuse. Après, je suis partie au Grand Théâtre de Genève avec Savary, où j'ai fait une autre Veuve Joyeuse, tout à fait différente, traitée par Savary. Ça volait. Et voilà. Et j'ai travaillé quelques belles années dans le lyrique, ce qui fait qu'il y a eu un entracte chanson. Et puis un beau jour, j'ai joué une comédie musicale et là-dedans, il y avait des jeunes chanteurs. Et il y en a un qui commençait dans les cabarets qui essayaient de renaître. C'est-à-dire à l'époque, c'était le Loup du Faubourg, c'était ailleurs, à la Bastille. Et je suis retournée dans ces lieux et là, le virus n'était pas mort. Et donc, j'ai rembrayé.
La chanteuse sourit sur la scène, toutes ses dents dehors, elle chante l'amour. Les oiseaux, les fleurs, Paris, la Seine, elle fait son œil de biche et sa voix de velours. La chanteuse ouvre son cœur de femme, soigne ses demi-teintes, fourmille son si bémol. Elle enlace demi-cause pomme, caresse le public, le câline, le cajole. Mais le public s'en fout. Il mange, il boit, il boit, il baffe. Il en est au faisan, il en est au fromage. Il prend la vie par le bon bout. Le public s'en fout, il plonge, il nage dans... se déchausse, il entend rien, mais rien du tout. Et il appelle les maîtres de l'hôtel, commande encore du vin, se tape sur les cuisses. Eh, la chanteuse, ouh ! Oh alors là, qu'elle chante ou qu'elle rentre en coulisses, il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout. La chanteuse souffre sur la scène, elle se dit, oh les vaches, mais tout en souriant, les vermines, je les aurai quand même, je leur arracherai leurs applaudissements, renversant la vapeur, elle clame, les malheurs de la guerre, les soldats éventrés. Elle met ses tripes sur la table, hurle à la mort, un chien même en aurait pitié. Mais le public s'en fout, repue, il fume des cigares, il en est aux liqueurs, il en est aux histoires de fous, de fesses, mais de fesses surtout. Du coup, personne ne se retient plus. Chaque homme tente sa voisine qui renverse son verre de fine et fuse en petits cris aigus. Les genoux cherchent les genoux, les mains s'égarent sous les tables. Et la chanteuse, oh alors là qu'elle aille au diable, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. La chanteuse pleure dans sa loge. Elle pense, mon Dieu, pourquoi ne suis-je pas restée coiffeuse, coiffeuse à Limoges. Au moins là-bas, personne ne se foutait de moi. Puis soudain, empoignée par la rage, elle jette son manteau sur sa robe enlamée, traverse la rue entre sauvages, au cabaret d'en face, y finir sa soirée. Et elle aussi en se foutre de tout, et d'abord de la chanteuse qui braille sur la scène. Oh l'idiote, elle s'époumonne, se débat, se démène, alors que le public s'en fout, et elle appelle tous les chefs de rang. Dites donc, changez-moi dans ce champagne, il est tiède. Et la chanteuse aussi, tenez, elle est trop laide. Non mais vous l'avez, j'en suis sûre, depuis au moins 40 ans. Je veux le personnel à mes genoux, je veux des violons, je veux des tziganes. Ah non, ah non, et ne répliquez rien, hein, bougre d'âne. Je suis le public, moi, et je m'en fous.
Les interviews publiques dans le cadre du 12e Festival Fête de la Chanson à Arras avec l'association Didouda sur Radio Scarpe Sensé. Aujourd'hui, on retrouve Misson et Marie-Thérèse Aurin.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la comédienne dans l'interprétation de la chanson ? C'est la même discipline ou
C'est-à-dire que ça sert beaucoup d'avoir pris des cours de comédie quand on chante. Enfin, tout dépend ce qu'on chante. Hein. Mais si on chante ce que j'appelle des chansons tranches de vie, des chansons, enfin ce que j'aime moi, l'école de la chanson française, eh bien d'avoir fait de la comédie, d'avoir interprété des rôles, ça aide. Ça aide.
Le choix du répertoire également, pour il est à constituer. Vous êtes sur un répertoire spécifique, voilà, il y a place à la poésie, place également à l'émotion à travers tout ça, au rire, voilà.
Et c'est comme la vie. Dans la vie, on rit, on pleure, on a du chagrin, on rigole avec les copains. Et bien la chanson, c'est pareil, c'est des tranches de vie. Donc des tranches de vie que j'aime bien partager avec les gens. Et c'est ce que je disais hier, après la projection de « Il est minuit, Paris s'éveille ». J'avais été au dernier récital de Maurice Chevalier. Et ce qui m'avait bouleversée, c'est que cet homme, qui était déjà d'un âge, c'était d'ailleurs son dernier récital, eh bien, tout d'un coup, il s'interrompait. La salle était bourrée. Et il regardait les gens, il disait « Vous, madame, peut-être que l'année où j'ai chanté, viens titine, machin, vous, ça évoque pour vous vos fiançailles. Vous, monsieur, C'est peut-être l'année où vous avez rencontré votre future femme. Et c'est ça, la chanson.
Ça doit être un marqueur temporel dans l'existence.
C'est la culture de la rue. C'est la culture de la rue. Ça n'est pas un genre mineur, la chanson. C'est de la culture.
Misson, oui. Quand vous écoutez ce parcours, cette vie, vous êtes jeune interprète, qu'est-ce que... Ça donne envie, ça fait rêver.
Ah, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. C'est très beau. Enfin, du coup, on a envie d'écouter que ça s'arrête pas parce que c'est magnifique. Et je suis totalement d'accord avec ce que Marie-Thérèse vient de dire, de dire que la chanson, c'est la vie, c'est des tranches de vie. Vraiment, c'est tout à fait ça. Enfin, moi, c'est pareil, dans mon répertoire, il y a beaucoup de chansons... enfin, je sais pas ce que vous avez entendu, mais du coup, en fait, il y a pas mal de chansons de la vie quotidienne, reprises avec beaucoup d'autodérision, avec des personnages tout à fait différents. Moi, ça va être beaucoup sur, justement, les mamies, les caricatures de mamies, ou les enfants, ou des gens... ou justement, des... plutôt des chansons de poésie, et c'est exactement ça, c'est exactement ce que je voudrais faire comprendre aux gens, c'est que c'est vraiment des tranches de vie, c'est des leçons de vie en quelque sorte en fait.
Ça raconte sérieusement la vie sans gravité.
Voilà, c'est ça, exactement.
Mamie, oui, 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 mamie, s'il vous plaît, moins fort, mamie, moins fort, ça roule à côté, oh, mamie, ah bah là c'est mieux.
Te souviens-tu, mamie, ces nombreuses années où on venait chez toi les week-ends ou bien la journée? On faisait des conneries de gamin, mais toi tu disais rien parce que tes yeux y voyaient rien.
Bon bah tu sais, ils voient toujours rien, puis ils s'arrangent pas bien, ils sont la vieille, hein.
repose en paix, mamie. Rendez-vous dans une autre vie.
Misson et Marie-Thérèse Aurin, toutes les deux en interview publique dans le cadre du festival Fête de la chanson à Arras. Tout au long du festival, on se donne rendez-vous à l'hôtel de Guine à 14h pour ces interviews publiques, suite de cet entretien avec Marie-Thérèse Aurin et Misson.
La rencontre avec le piano, il a fallu choisir entre piano et chanson.
Alors justement, en fait, moi je suis avant tout musicienne, voilà, c'était j'ai appris le piano depuis très très jeune, mais en fait la passion pour la chanson, ça a toujours été, mais j'y croyais pas tout à fait. En fait, j'ai suivi un cursus de jazz en me disant, parce que j'ai un père jazzman en fait, et du coup je me disais, est-ce que c'est totalement ce que je veux faire ou pas. Enfin, lui il voulait me pousser dans le jazz, mais moi c'était plus, j'étais pas tout à fait d'accord avec ça. J'adore le jazz et ça fait partie de mes influences totalement. Mais c'est vraiment la chanson que c'était mon désir, quoi, vraiment.
Parce que ça permet justement de s'exprimer en complément de la musique, de mettre les mots, sont importants.
Les mots, totalement. C'est vraiment l'importance des mots.
L'importance des mots des autres, c'est compliqué que de se constituer un répertoire avec de tels auteurs, parce qu'il faut les sélectionner, les textes, Marie-Thérèse.
C'est passionnant.
Comment on fait avec...
C'est passionnant.
Avec tant de rencontres, tant de textes, comment vous avez fait pour sélectionner les textes qui vont être dans Intact, et puis peut-être d'abord revenir sur, voilà, enfin l'album, quoi, enfin le livret, c'est un objet, c'est pas un album, il y a votre vie dedans.
Voilà.
Il y a beaucoup de choses que vous nous avez racontées, il y a d'autres anecdotes, il y a de superbes photos. C'était devenu un moment, c'était le moment de le faire, ça, ou...
Oui, c'était le moment, oui.
Et alors,
j'ai quand même eu beaucoup de patience, voyez-vous.
Ouais. Ma question est...
Mais quand on aime, on ne compte pas.
Pourquoi pas avant?
Pas avant, parce que je vais vous dire, je suis tombée dans la chanson au plus mauvais moment. Je suis arrivée, d'ailleurs dans le film d'hier matin, on le dit, et je ne suis pas la seule à le dire, c'était un tsunami qui nous est tombé dessus. On venait d'arriver dans la chanson et la vague yéyé a déferlé. Ça a été... On a été submergés. Donc, il y a quelques cabarets qui ont encore tenu un peu le coup. Mais si vous voulez, on a été marginalisés. Maintenant, ça me fait rire parce que quand on a tourné le film... Il y avait les techniciens, la petite maquilleuse, ils me disaient, est-ce que vous en avez de la chance d'avoir connu cette époque et d'avoir croisé tous ces gens? Parce que moi, mes copains de cabaret, de travail, c'était Barbara, c'était Serge Lama, j'ai beaucoup travaillé avec Brassens, j'ai fait ces deux derniers Bobino, parce que malgré tout ça, on arrivait encore à faire du musical, à travailler sans disque. Ce qui, maintenant, n'est plus possible. C'est même pas envisageable. Mais à l'époque, donc, c'était mes copains de travail, tout ça. Moi, j'ai côtoyé... Alors, il y avait beaucoup d'humoristes sur la rive gauche. Alex Métayer, Bernard Allaire, Popek, mon copain Popek. C'est moi qui l'ai amené dans les cabarets parce qu'un soir, chez lui, il nous a fait ses histoires juives. Et on était pliés en 12 sur le canapé, on rigolait. Et je lui dis, mais Popek... Je l'avais connu au cours Simon, lui. Je lui dis, mais il faut que ces sketchs-là, tu les fasses dans les... Je vais te présenter dans la... Tu crois que ça va plaire? Mais je dis, mais je te parie, allez, viens. Et c'est moi qui l'ai amené à l'Écluse, à l'échelle de Jacob, au port du Salut. C'est là où il a fait ses premières armes.
On n'est pas des sauvages, quoi.
On n'est pas des sauvages, non, voilà. Non, on n'est pas des sauvages. Et entre artistes, on s'entend bien, enfin bon.
Comment ça naît, ça? Ça vient de comment, alors, finalement?
Ah, ça vient, alors là, ça vient... ça faisait 5-6 ans qu'une amie qui est chanteuse, qui, on l'attend, elle va arriver, et... Ah, elle est là. Elle est là, viens là, viens là. Attends. Viens, on va te faire une place. Elle mérite une place. Et ça faisait 5-6 ans qu'elle me disait, ah, je voudrais te faire un disque, parce qu'elle est éditrice et productrice d'une série... consacré à des comédiens, ce qu'on appelle des seuls en scène, des gens qui font des monologues de théâtre en scène. Et elle me disait, je veux te faire un disque. Et comme quand même je suis d'origine auvergnate et j'ai les et moitié bretonne, j'ai les pieds sur terre, je lui disais: Clémentine, j'ai pas envie que tu bouffes ta culotte. Alors, j'étais réticente. Et puis il y a eu un événement, elle m'a fait venir dans son européen, parce qu'elle avait fait un européen pour une sortie de disque, de son disque à elle, et elle me dit: il n'est pas question que tu ne viennes pas chanter deux chansons. Ben, j'ai dit: oui, deux chansons, je viens te les chanter, il n'y a pas de problème. Et ça a été le miracle. L'Olympia. Arrivons. j'ai fait l'Olympia en première partie. Alors, l'Européen, c'était à l'Européen, et je suis montée en scène, j'ai chanté mes deux chansons, et ça a été, là aussi, un tsunami. Ça a été extraordinaire. Et quand je suis sortie de scène, elle m'a dit: tu vois, imbécile, qu'est-ce que je te disais? Alors là, je me suis dit: après tout, pourquoi pas? Hein? Qui ne tente rien à rien. Et voilà, on s'est mise, enfin, elle s'est beaucoup mise au travail. Et voilà le produit, comme on appelle ça, puisque maintenant nous sommes des produits. Un jour, je me suis prise de bec avec une attachée de presse de maison de disques. Ah, ça, je ne pouvais pas, ça ne passait pas. Tout le déjeuner, j'ai entendu: ah, on a un produit auquel on croit beaucoup. Ah, le produit, comme s'il parlait de paquet de lessive. Alors, au bout d'un moment, ça a été plus fort que moi. J'avais une amie à côté de moi qui commençait. Elle se disait: oh là là, ça va chauffer. Parce qu'elle me connaissait quand même. Et tout d'un coup, je lui dis: pardon, mademoiselle, est-ce que vous pourriez arrêter d'appeler les artistes le produit? Parce que ça me dérange. Ouais. Mais comment? Elle se dit: cette particulière que je ne connais même pas, c'est qui ça? Alors je lui dis: voyez-vous, mademoiselle, parce que là-dessous, il y a du sang qui circule et il y a un cœur qui bat. Alors, soyez gentille. En tout cas, tant que je suis là, n'appelez pas ça le produit. Je me suis fait mal voir ce jour-là. Nous sommes des produits maintenant. Ah. Un petit télégraphiste. Enfin, quand je dis petit, 1m78 et demi. Des épaules larges comme celles d'un Turc. Une peau fraîche et belle, bref, un homme. Un beau se tient au seuil de ma porte, riant de toutes ses dents. Il me tend un pli qui porte urgent. Je déchire le télégramme. Bien arrivé, bon baiser. Pas grand-chose pour faire un drame. Va falloir improviser. Je crie: oh mon Dieu! Je tombe comme si j'avais appris pour le moins la fin du monde. Et puis j'écarte d'une main preste les deux pans de mon peignoir de telle façon qu'il laisse tout voir. Et la cuisse découverte, ventre nu, sein palpitant, étendue, gisante, offerte, j'attends. Mais ça traîne, rien ne se passe. J'observe à travers mes cils. La situation l'embarrasse. Oh, le petit imbécile! Oh, tout de même, il se décide. Il me porte sur mon lit. Doucement, il est timide, le chéri. Silence, lourde promesse. Oh, c'est le meilleur moment. Je me sens biche et tigresse, torrent. Soudain, aïe! Une piqûre dans la fesse, je bondis, je lui saute à la figure, bandit. Il dit: je suis secouriste, calmez-vous, restez couché. Ça n'est rien qu'une petite piqûre d'alcool camphré. C'est trop, je deviens terrible, je lui hurle: petit con, boy scout, hermaphrodite, chapon, ectoplasme, tas de graisse, sous-développé sexuel, chantré, inverti, espèce de donzelle. Je le prends par la cravate, il dévale sur le dos, trois étages, alors j'éclate en sanglots. Qu'est-ce que c'est que cet éphèbe, ce mannequin, ce blanc bec, celle-là l'aurait les raides. C'est bien mon premier échec. Si le coup du télégramme ne prend plus, alors malheur, oui,
Malheur, malheur aux femmes d'intérieur. Et puis malheur à la France, à la civilisation. C'est le gouffre, la décadence, l'abandon. Il y a déjà plus de domestiques, plus de respect, plus de saison. Comment vivra la tragique situation? Je vous le dis sans emphase, je refais le coup demain. Et s'il ne se passe rien, je me fourre la tête dans mon réchaud à gaz.
Marie-Thérèse Orin et Misson, aujourd'hui, interview publique réalisée dans le cadre du 12e festival Fête de la Chanson à l'Hôtel de Guine. À Arras, Marie-Thérèse Orin, que l'on retrouve avec Clémentine, celle qui l'a décidé à enfin enregistrer un album.
Clémentine, tout à l'heure, Marie-Thérèse nous expliquait un petit peu que voilà, ça se passait comme ça, c'était un peu à l'ancienne, c'était un coup de cœur à l'ancienne. Également, comme on pouvait se lancer dans une aventure sans tenir compte de produits, de marchés, de placements, quand on craque véritablement. Alors c'est qu'on se dit, c'est trop confidentiel, il faut vraiment maintenant, cette fois-ci, l'exposer et le rendre accessible au plus grand nombre.
Il y a plusieurs choses. Il y a que d'abord, en tant qu'éditrice, je ne fais que ce que j'aime. Et donc c'est déjà un privilège absolu et je le fais avec des artistes qui ne sont pas forcément médiatisés. Donc déjà, j'ai cette démarche. Et puis ensuite, quand j'ai vu Marie-Thérèse pour la première fois, c'était en 2004, à l'Essaillon. Et quand je suis sortie de son récital... moi, je suis chanteuse, donc très intéressée par le répertoire. J'ai trouvé qu'elle avait un répertoire décapant et une interprétation à tout casser. Et puis, j'ai cherché, pas de disque, rien, rien, rien. Et puis, il se trouve qu'entre chanteurs, on va beaucoup s'écouter, on se rencontre, on se parle et on est devenus amis. Et ensuite, c'est vrai que je l'ai tarabustée en disant, mais... Il n'y a pas de disque, il n'y a pas de disque, quoi. Alors c'est De Broncard qui l'a écrit pour toi. Personne ne va les avoir. Une chanson qui n'est pas enregistrée, elle est morte. Et moi, ça me tordait les boyaux que non seulement les De Broncard soient dans des tiroirs d'une certaine manière, mais d'autre part qu'on n'ait pas une trace de l'interprétation de Marie-Thérèse. Les personnes qui vont la voir ce soir... Ça a été le cas, c'est à peu près notre 20e date depuis qu'on a commencé cette aventure. Les personnes qui vont la voir sont médusées, scotchées. Et d'ailleurs, je trouve que tous les interprètes de chansons devraient voir des gens comme Marie-Thérèse parce qu'on ressort de là en disant « Ah oui, alors bah oui, l'interprétation de la chanson, c'est ça. Ça peut être ça. » Et ça, c'est merveilleux et il fallait que ça reste. Donc ça ne fait rien. On ne gagne pas beaucoup d'argent, mais dans chanson, si on gagnait de l'argent, ça se saurait, à part le show business. Mais on n'est pas à Arras pour ça aujourd'hui. Donc, Marie-Thérèse, il fallait avoir une trace, on l'a. Et non seulement on l'a en disque, en livre-disque, avec une biographie, avec des photos d'elle en comédienne, avec Louis de Funès, avec Brigitte Bardot. Donc on a ce petit ouvrage qui est un livre-disque, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus cher qu'un disque. Mais on a aussi des traces vidéo parce que ce soit à l'Européen pour lequel je l'avais convié ou ensuite au Forum Léo Ferré, on a tout filmé. On a filmé et il y a des vidéos sur YouTube que tout le monde peut voir. Et il y a notamment une vidéo, puisque à l'Européen qu'on avait fait ensemble, qui jouait Madame Loyal pour la soirée, c'était Madame Raymonde. Et de fait, Marie-Thérèse et Madame Raymonde, Denis D'Arcangelo ne chantait pas, mais il jouait... Sur scène, on le voit dans Ma Sœur et c'est totalement jouissif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le contrat est rempli, puis l'aventure va continuer. Ce que Marie-Thérèse ne vous l'a peut-être pas dit, mais elle va bâtir un nouveau récital pour la fin novembre. Et on va continuer l'aventure. Ça fait rien. Le plaisir est si grand pour tout le monde. Et puis, on fait ça le comble à chaque fois. Il n'y a pas de problème de ce côté. Donc, moi, je suis très, très heureuse et fière d'avoir eu cette envie d'avoir fini par la convaincre. Ça a été dur, mais ensuite, on s'y est mises toutes les deux à fond. Et on a eu la chance que, pour les amateurs de chansons, eh bien maintenant, parce que ça, c'est la version livre-disque, mais il y a une version coffret. Et dans le coffret, j'ai édité les 10 partitions inédites des chansons de Jacques de Broncard en espèce de petit format, sur lequel il y a une photo de Marie-Thérèse en couverture à chaque fois, comme les petits formats à l'ancienne. C'est un 4 pages avec une couverture. L'intérieur, c'est la mélodie et les accords américains, et puis les paroles. Et puis au dos, il y a une photo différente aussi de Jacques de Broncard, qui est quand même un auteur extraordinaire. Extraordinaire. Alors, voilà, on est très contentes toutes les deux d'avoir joué les Thelma et Louise et d'avoir réussi notre aventure bienfaitrice.
Misson, le fait d'être bien, d'être bien encadré également, ça compte pour vous, là, actuellement, ça se situe, ça se place ?
Oui, c'est vrai que c'est encourageant, c'est rassurant, ça fait. Enfin, moi, je sais que à ma petite échelle, parce que ça fait vraiment peu de temps que je chante mes chansons, ça fait à peu près 2 ans. Ça fait vraiment du bien d'entendre ça, de savoir qu'on est entouré, que les artistes sont bienveillants. Qu'il y a beaucoup de solidarité, et puis les rencontres, c'est toujours très important à prendre, et c'est pour ça qu'on est là, et voilà. Bon, moi, voilà, comme je viens de dire, j'ai vraiment vraiment très peu d'anecdotes de parcours comme ça, mais j'ai hâte que ça vienne. Enfin,
ce soir, d'être en première partie de Marie-Thérèse, c'est quoi? C'est une opportunité, une chance?
Une belle chance, une belle opportunité.
Ouais, parce qu'il y aura un public qui peut-être se déplacera et fera 2 découvertes
à la place. Exactement. Ils en auront 2 pour le prix d'une.
Exactement.
Deux pour le prix d'une, c'est...
Moi, je voulais...
J'allais dire, c'est un placement de produit, mais bon.
Je voulais juste rajouter une chose qui n'est pas importante, mais qui est importante pour moi, c'est que la collection de livres-disques de théâtre, c'est parallèle à la chanson, mais grâce au succès du premier opus, qui était celui de Vincent Roca, avec un spectacle sur le temps, ça m'a permis de la donner... Et à l'association Valentin 8, donc tous les titres, sauf celui de Marie-Thérèse, parce que la chanson, ça fait appel à trop d'auteurs et de compositeurs différents, et ça m'aurait demandé un travail d'autorisation absolument colossal. Mais sinon, tous mes opus de théâtre sont gratuitement donnés à l'association Valentin 8, donc en médiathèque, ils sont disponibles pour les malvoyants. Voilà, je tenais à le dire parce que ça fait partie de la philosophie du travail que je fais. J'aurais adoré de pouvoir donner aussi le travail d'interprétation de Marie-Thérèse en chanson, mais c'est un petit peu compliqué.
Ok, alors en fait, moi, je voudrais faire une dédicace à tous mes frères et à toutes mes sœurs, parce qu'en fait, je pense que tout le monde pouvait se donner la main. Et ceux qui savent... Non, mais franchement, et ceux qui savent pas où est leur main, par exemple les cul-de-jatte, enfin ceux qui n'ont pas de bras, eux, ils peuvent se regarder dans les yeux. Hein. Et les aveugles, on s'en tape, hein. Je survis à l'intérieur de moi. Je survis à l'intérieur de moi. Je survis à l'intérieur de moi. Et même à l'intérieur de moi. Première fois que l'on s'est vu, je ne savais pas que c'était toi. La première fois que l'on s'est vu, je ne savais pas, non, non, non. première fois. Je m'en parle, mon yaourt allégé.
I wanna kiss me. I wanna be. I wanna stick your little spears, Miss Gray.
De moi. Well, peace, baby. Merci beaucoup à tous ceux qui ont compris mon message que je voulais faire passer dans ma chanson.
Misson et Marie-Thérèse Aurin, toutes les deux en interview publique dans le cadre du 12e Festival Fête de la Chanson. Les interviews publiques tous les jours à l'hôtel de Guine à 14h. Fin de notre entretien aujourd'hui avec Misson et Marie-Thérèse Aurin.
L'air du temps, ça compte, Misson, pour vous, ce qui se passe actuellement quand vous êtes jeune, auteur, compositeur, interprète. Vous écoutez tout à l'heure, Marie-Thérèse nous disait, nous, on s'est pris les yéyés en pleine tête, quoi. C'est pas du tout ce qu'on faisait. Comment vous jonglez avec ce qui fait... Il y a des choses qu'on entend qui sont matraquées, qui sont réellement différentes de ce que vous proposez. Comment on fait pour exister au milieu de tout ça, aujourd'hui ?
Je dirais que c'est vrai que ce qu'on entend en ce moment, enfin, en tout cas moi, ce que j'entends, on n'entend pas assez la modernité des chansons françaises. Enfin, moi, ce que j'entends, c'est souvent la chanson commerciale, on va dire, ce que j'appelle entre nous la musique McDo. La musique McDo, pour moi, c'est justement... On n'a pas forcément envie de l'entendre, mais on l'entend par obligation un petit peu. Enfin, quand on allume la radio, c'est le premier truc qu'on va entendre. Et justement, moi, j'ai pas envie que... Enfin, j'aimerais en tout cas que ce que je fais ne tombe pas dedans et plutôt m'orienter sur de la modernité comme des chanteurs qui sont peut-être un peu moins connus comme Mathieu Bogart ou Presque Oui, par exemple, des groupes comme ça, ou Old Olaf, qui sont... Enfin, vraiment, c'est mes sources d'inspiration. Ils sont modernes, mais pas commerciaux. Et c'est comme ça que j'aimerais voir les choses. Donc peut-être, justement, y aller petit à petit, ne surtout pas se précipiter, et pas... toujours aller dans les bonnes directions, dans les bons réseaux.
Marie-Thérèse, comment on fait pour ne jamais lâcher, toujours continuer à y croire malgré tout ce qui peut se passer?
Le jour où j'y croirai plus, voyez-vous, je pars à la campagne.
Alors qu'est-ce qui fait
parce
que...
qu'alors là, ça deviendrait du...
C'est quoi le moteur de l'envie, si vous allez me dire,
Le moteur de l'envie, c'est le public. C'est extraordinaire. Le spectacle vivant, c'est-à-dire que tous les jours, tous les soirs, tout est à refaire. Et c'est ça qui est passionnant. C'est passionnant.
C'est vrai, c'est passionnant.
On a de la matière vivante en face de nous. Et la balle revient. Puis si elle est dure à revenir, eh bien on va les chercher. c'est magnifique. La chanson, c'est... Moi, j'ai fait une découverte, parce que, étant comédienne avant, tout d'un coup, le soir où j'ai chanté seule en scène pour la première fois à l'échelle de Jacob, j'ai découvert un univers qui m'a passionnée. J'aime ça.
L'interview publique dans le cadre du 12e Festival Fête de la Chanson avec l'association Didouda à Arras. Tout au long de cette semaine, Radio Scarpe-Sensé vous fait vivre au rythme du festival. Rendez-vous tous les jours jusqu'au 25 juin, 14h à l'Hôtel de Guine pour les interviews publiques. Aujourd'hui, nous étions avec Misson et Marie-Thérèse Aurin. À bientôt. C'est quoi d'un garçon ?